bashinga zula zula mbengu wehla wenyu uzulu zulu.
De la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Mel Emmanuel.
Waninou, c'est dans la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est 12h là-bas, comme partout dans le pays. Merci de nous suivre sur Radio de la Paix. Accusation de déstabilisation du Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Elles traduisent un état de méfiance et compliquent la nécessaire coopération dans la sous-région, selon William Assanvo, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. La filière Anacard au fil des années est une grande pourvoyeuse d'emplois pour les populations. Ce sont près de 15 000 emplois directs et 70 000 emplois indirects, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé. De nos frontières, 5 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe à Mogadiscio, dans la capitale somalienne. Et de retour en Côte d'Ivoire, nous terminerons ce journal avec l'invité de la rédaction. Avec lui, nous reviendrons sur les contours et les possibles conséquences de la tentative d'assassinat dont a été victime l'ex-président américain Donald Trump. Bonjour à toutes et à tous. Notre périple de l'information démarre avec une note de diplomatie. Le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'en est pris le jeudi dernier à ses voisins ivoiriens et béninois, les accusant de vouloir déstabiliser son pays. Ces relations tendues entre le Burkina Faso et ses voisins pourraient avoir des conséquences fâcheuses au niveau sécuritaire, puisqu'il y a une absence de coopération dans la lutte contre le terrorisme dans leurs frontières communes. C'est l'analyse de la situation que fait William Assanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité ISS.
Alors, il faut peut-être signaler que ce n'est pas la première fois que le président burkinabé lance de telles accusations pour le cas de la Côte d'Ivoire. C'est effectivement la première fois qu'il évoque aussi le Bénin, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est la deuxième fois que de telles accusations sont portées. Alors, je pense que ce nouvel épisode illustre l'état de méfiance, l'état de défiance dans lequel les relations entre le Burkina Faso et plusieurs de ses pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, se trouvent. C'est véritablement, je pense qu'un épisode qui rend encore beaucoup plus compliqué la nécessaire coopération qu'il est nécessaire d'avoir entre ces pays-là, notamment pour faire face à la problématique sécuritaire alimentée par l'activisme des groupes terroristes. Donc c'est une page assez problématique de la coopération au niveau bilatéral et même au niveau régional en Afrique de l'Ouest.
Faut-il s'en inquiéter sérieusement ?
Oui, il faut s'inquiéter de cette absence de coopération entre les pays de la région. Il faut s'inquiéter de la fracture qu'on observe depuis plusieurs années, la fracture au niveau du bilatéralisme, donc de la relation entre plusieurs pays de la région. Et c'est véritablement des évolutions qui ne sont pas de nature à permettre à la région de se retrouver pour faire face aux défis multiples auxquels elle est confrontée, notamment la crise sécuritaire.
William Assanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, il a été joint par Soro Adams. En politique au sud-est de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a invité toutes les forces désireuses à s'unir à lui pour un changement en 2025. Propos tenu lors de son meeting hier à Bonoua, où il a été reçu dans la pure tradition aborée. On écoute à cet effet notre reporter, Christelle Yesso, qui y était.
Plus qu'un meeting, une visite de retrouvailles entre Laurent Gbagbo et le peuple aboré, qui débute par une salutation à la royauté. Laurent Gbagbo s'est exprimé sur les élections à venir.
Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025.
Lançant un appel au rassemblement à toutes les forces politiques à s'unir pour un changement. Par la suite, Laurent Gbagbo a intégré la génération Noudjou Atigré au grade le plus élevé.
Les attributs vont permettre d'élever le président franc de cette génération. Il y a un tableau qui accompagne ces attributs.
Suivi des mots du député de Bonoua, professeur Ekra Joseph.
Nous avons choisi le 14 juin parce que le 14 juin 1990, vous étiez à Bonoua pour entamer la lutte pour la démocratie. Nous avons choisi le lieu parce que c'est ici même, à la place publique de Benoît, que vous avez pris la parole le 14 juin 1990. Nous avons choisi ce lieu parce que le 20 octobre 2005, vous avez posé la première pierre de la statue de Kadjo Amangwa à l'occasion de son retour sur sa terre natale.
Laurent Gbagbo invitant pour terminer le gouvernement à faire un effort pour réduire la cherté de la vie.
La Fondation Friedrich Neumann, à travers un récent atelier de réflexion, veut intensifier la participation des femmes ivoiriennes en politique. Pour Magloire Ndeye, chef du bureau en Côte d'Ivoire de Friedrich Neumann, il faut être plus contraignant dans la loi sur le quota de 30% dans les assemblées élues et donner davantage de rudiments politiques aux femmes afin d'être plus aguerries. Nous l'écoutons.
De repenser la loi sur le quota de la participation des femmes sur les listes électorales. Il se trouve que cette loi n'est pas suffisamment contraignante pour les organisations politiques puisque nous avons fixé 30%, mais qu'est-ce qu'on en fait de ceux qui ne respectent pas ces quotas? Donc nous proposons qu'il y ait des contraintes à l'endroit des partis politiques qui ne vont pas les respecter. Par exemple, on pourrait déduire cela dans le financement des partis politiques qui leur sont accordés. L'autre chose, il s'agit de mettre en place des programmes de formation politique pour les femmes. Une chose, c'est de contraindre les partis, les organisations à les intégrer sur les listes électorales, mais il faut bien sûr que ces femmes-là puissent avoir les compétences, les capacités nécessaires d'organiser des campagnes, d'être actives sur le terrain.
C'est là que le bas blesse. Est-ce que les femmes, je veux dire, elles ont les outils pour faire de la politique?
Ce n'est plus est-ce qu'elles peuvent ou est-ce qu'elles ne peuvent pas. Elles doivent le faire. Donc, pour nous, il s'agit de mettre en place le mécanisme. Aujourd'hui, la Fondation Friedrich Neumann le fait, d'autres le font. Il va falloir amplifier. Donc, nous proposons à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place un vaste programme de formation politique qui vont inciter les femmes. Parce que très souvent, elles ont peur, n'ont pas confiance en elles. Il va falloir renforcer le leadership politique des femmes. C'est des grands programmes. Ça a été fait en Allemagne, ça a été fait dans d'autres pays qui sont des bons exemples que nous pouvons nous en inspirer.
Le chef du bureau en Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Neumann, Magloire Ndeye, à l'instant en ligne avec Constant Maillet. Nous parlons aussi de processus électoral dans ce journal. À Boaké, le commissaire central de la Commission électorale indépendante CEI pour la région du Boaké, le professeur Yapo Yapi, a rencontré récemment les leaders politiques, les représentants de la société civile, le corps préfectoral, les ONG et les associations communautaires. Au cœur des échanges, le processus électoral. Écho de cette rencontre avec Joseph Assalé, notre correspondant sur place.
L'initiative de cette campagne sur le processus électoral a une finalité au dire du superviseur de la CEI, Commission électorale indépendante pour la région de Gbeke, professeur Yapo Yapi.
Fait en sorte que les élections ne fassent plus peur et que chacun parle des élections en toute connaissance de cause.
L'exposé du commissaire central de la CEI pour le Gbeke a tourné autour des acteurs directs de l'élection, à savoir le candidat et l'électeur d'une part, et d'autre part sur les acteurs indirects, comprenant entre autres les agents des bureaux de vote, les ONG et les observateurs. À l'occasion de cette rencontre, le superviseur de la CEI, professeur Yapo Yapi, a fait des recommandations.
Un électeur ne doit pas accepter d'être transporté la citoyenneté que nous sommes venus promouvoir. Ensuite, les partis politiques, quand ils mettent des représentants dans les bureaux de vote et que ces représentants ne font pas leur travail, ils rejettent la faute sur la CEI. Donc chacun doit jouer son rôle pour que tout se passe bien. Il faut que les gens se calment pour que les choses se passent normalement.
C'est Congo Justin, vice-président de la jeunesse communale de Boaké.
Nous, en tant que jeunes, on a déjà initié des tournées déjà dans les quartiers pour ces élections à venir, que nous voulons apaiser.
Mais du côté du PDCI RDA, on revendique plutôt Maître Blessy Chrysostome.
Équilibrer la CEI, la dissolution de la CEI en son état actuel.
À cette rencontre de la CEI, les partis politiques ont brillé par leur absence, à l'exception du PDCI et du RHDP. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la paix.
Filière Anacard, nous partons à Boundiali. À la faveur de l'inauguration de la plus grande usine de noix de cajou d'Afrique de l'Ouest, le Premier ministre est revenu sur l'évolution de cette filière en Côte d'Ivoire, et ce, chiffre à l'appui. Robert Begré-Mambé, au micro de notre correspondant régional, Tommy Corona.
En 2011, la Côte d'Ivoire produisait 400 000 tonnes de noix de cajou brutes. En 2023, la Côte d'Ivoire a produit 1 200 000 tonnes de noix de cajou brutes. De 400 000, nous sommes passés à 1 200 000. En 2019, la Côte d'Ivoire transformait 9% de sa production de noix de cajou brutes. En 2023, la Côte d'Ivoire transforme 22% de ces noix de cajou brutes. En 2011, il y avait seulement quelques unités de transformation des noix de cajou brutes. En 2023, la Côte d'Ivoire a 35 unités de transformation de noix de cajou brutes. Actuellement, grâce aux usines de transformation des noix de cajou brutes, la Côte d'Ivoire offre 15 000 emplois directs aux jeunes et aux femmes. Si nous comptons tous les emplois indirects liés au travail de noix de cajou, de l'anacarde, c'est plus de 70 000 emplois que la Côte d'Ivoire offre à ses enfants. En 2023, plus de 420 000 Ivoiriens cultivent et produisent par l'anacarde des milliers de tonnes de noix de cajou brutes, ce qui fait vivre 3 à 4 millions de nos frères et sœurs Ivoiriens.
Vous écoutiez le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Lutte contre la corruption, les journalistes membres de l'Organisation des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire ont été formés sur le signalement des actes de corruption vendredi dernier par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à Abidjan. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine de la lutte contre la corruption, célébrée tous les 11 juillet et avait pour thème « Mécanisme de protection efficace des lanceurs d'alerte, outils essentiels dans la lutte contre la corruption ». Le point avec Jean-Mélène Bitti.
Dago Diriga Désiré, secrétaire général par intérim de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, est revenu sur ce que l'institution attend des journalistes.
De manière spécifique, il vous est demandé de mener des enquêtes approfondies pour mettre en lumière les pratiques de corruption et les abus de pouvoir, de dénoncer les cas de corruption et de sensibiliser l'opinion publique sur ces fléaux, de fournir des informations factuelles et vérifiées pour permettre aux autorités de prendre des mesures appropriées contre la corruption.
Seri Bakone, président des journaliste d'investigation de Côte d'Ivoire, pour lui, cette formation vient à point nommé.
Nous, en tant que journalistes d'investigation, nous sommes au bout et à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a les lanceurs d'alerte, il y a les dénonciateurs et il y a les révélateurs. Les révélateurs sont les journalistes d'investigation. Un journaliste d'investigation peut aussi lancer une alerte. L'un dans l'autre, il fallait qu'on soit formé pour mieux faire notre travail.
Jimmy Kandé, directeur Afrique de l'Ouest de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, par ailleurs formateur, il vient ici sur quelques notions anciennes aux journalistes.
Il y a eu premièrement d'abord la question du lanceur d'alerte qui est comme un terme assez nouveau. Déjà, essayer de faciliter cette compréhension. De deux, insister sur certaines notions aussi qui sont la corruption, le blanchiment des capitaux et de voir que ces notions peuvent avoir des dimensions beaucoup plus importantes qu'on ne peut les penser de façon à pouvoir éveiller un peu l'attention des journalistes à pouvoir beaucoup fouiner davantage sur des questions qui touchent à la corruption, blanchiment de capitaux.
Notons que cette formation s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption intitulée « Signalons tout acte de corruption de façon anonyme ».
Et dans le Lot-d'Ivoire, en dépit de nombreuses campagnes de sécurité routière menées à Divo depuis un an, plus de 200 nouveaux cas d'accidents de la voie publique ont été enregistrés entre janvier et mars 2024. Le secrétaire général de la préfecture de Divo, Doumbia Adama, estime que le temps est venu de réprimer les cas d'incivisme à l'origine de ces accidents. Les nuisances sonores générées par les bars et maquis ont été également évoquées. Le contexte était la réunion trimestrielle de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. À Divo pour Radio de la Paix, Abel César Kassa.
À l'unanimité, les participants à cette rencontre trimestrielle de la Commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale se sont inquiétés du nombre croissant d'accidents de la voie publique, malgré de nombreuses sensibilisations. Marie-Rose Dambélé de la direction régionale du ministère de la cohésion sociale fait le point.
En accident de la route, au premier trimestre, il y a eu 202 de janvier à mars. Nombre de blessés causés par ces accidents-là, 271, et il y a eu 4 morts.
Le secrétaire général de préfecture, Doumbia Adama, montre le chemin de la fermeté.
Il y a des faits pour lesquels il faut passer à la répression. Parce que ceux qui font là, ils savent que ce qu'ils font là, que ce n'est pas bon. Mais ils font quand même. On est prêt à faire la répression.
En ce qui concerne la solution à la recrudescence des nuisances sonores nocturnes, localisées dans les quartiers Bada, Libreville, Belleville et Conakry, le directeur régional de la cohésion sociale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Auguste Didier Bissier, se montre rassurant.
La police est membre statutaire de la commission régionale comme la gendarmerie. Et donc, pour ces cas de nuisance sonore, nous travaillons actuellement même encore avec la structure de la police chargée de la lutte contre les nuisances sonores depuis 3 mois. C'est pour cela que le cas a été soulevé. Les résultats arrivent.
À souligner que ces nuisances sonores évoquées sont générées par les bars et maquis dont la musique s'entend à plusieurs kilomètres à la ronde la nuit. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, 5 personnes ont été tuées hier soir dans un attentat à la bombe qui a eu lieu devant un café à Mogadiscio dans la capitale somalienne. Alors que des habitants de la capitale visionnaient le match de la finale de l'Euro 2024 sur un écran à l'intérieur d'un café, une voiture chargée de bombes a explosé à l'extérieur, faisant 5 morts et une vingtaine de blessés. La bombe a détruit 10 voitures et endommagé plusieurs bâtiments à proximité dans une zone étroitement surveillée près du palais présidentiel. La police a bouclé la zone très fréquenté au moment de la déflagration. Et en sport, football, les compétitions internationales sont terminées. En Europe, l'Espagne s'est imposée hier sur un score de 2-1 face à l'Angleterre en finale de l'Euro et monte à nouveau sur le toit du vieux continent. Quant à l'Amérique, avec la finale de la Copa América, l'Argentine a triomphé de la Colombie dans les prolongations 1-0, remportant le trophée pour la deuxième fois consécutive après l'édition de 2021. Et nous revenons en Côte d'Ivoire et nous amorçons le dernier virage de ce journal avec l'invité de la rédaction. L'ex-président des États-Unis, Donald Trump, a été victime d'une tentative d'assassinat samedi lors d'un meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie. Il en est ressorti indemne avec une légère blessure à l'oreille, mais une personne a été tuée et le tireur présumé, un jeune de 20 ans et sympathisant du parti républicain, a été abattu par les forces de l'ordre. Une tentative d'assassinat qui interroge sur le dispositif sécuritaire autour de l'ex-président et qui peut par ailleurs lui servir pour un retour gagnant à la Maison-Blanche au terme de la prochaine présidentielle prévue le 5 novembre 2024. Le 5 novembre 2024. Ce sont des éléments d'analyse avancés par professeur Bamba Abdoulaye, enseignant-chercheur en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est interrogé par Aoussi Potin.
Professeur Bamba, bonjour.
Bonjour.
L'on a assisté à une tentative d'assassinat sur l'ex-président américain Donald Trump, qui est aussi candidat à la prochaine élection aux États-Unis. Comment vous analysez cet incident malheureux?
Mais dans un premier temps, d'abord la surprise générale, hein, de voir que un ancien chef d'État et un candidat à l'élection présidentielle a été victime d'une tentative d'assassinat. Et puis après, l'émotion passée, on peut maintenant réfléchir sur la question de la sécurité, les dispositifs, le contexte dans lequel cela s'est passé et si ça va servir d'élément pour booster la campagne de l'ancien président américain. Mais en tout cas de cause, c'est le moi, c'est l'émotion, et puis après, bon, on analyse maintenant.
Alors, parlant d'analyse, comment on peut expliquer que cela puisse intervenir après ce débat face à son adversaire Biden et à quelques jours, pour ne pas dire heure, de la convention républicaine?
La première question qu'on se pose, c'est comment cela a pu être possible quand on fait généralement toutes les dispositions sécuritaires qu'on prend autour d'un ancien chef d'État et de celui qui est candidat à l'élection présidentielle. La seconde menace, elle est politique surtout. Hein. Comment Donald Trump et son équipe vont donc profiter de cette situation pour mieux se positionner? Déjà que l'état de santé de Biden était un avantage pour lui. Il peut donc servir maintenant de cette situation-là, de cet incident, pour essayer de remonter encore davantage au niveau des cotes. Et puis surtout, avec le poing qu'il a brandi en l'air, il donne l'image donc d'un combattant qui, quels que soient les obstacles, est toujours en train de se battre, est toujours debout. Et je pense que tout ça va militer positivement pour lui dans les heures à venir.
Alors, professeur Bamba, du côté du Parti républicain, l'on laisse entendre que c'est la rhétorique démocrate qui a mené à un tel incident.
Vous savez qu'en période d'élection présidentielle ou généralement d'élection, il y a beaucoup de passion. Et la passion, on ne peut pas les maîtriser. Donc, accuser automatiquement le camp démocrate, c'est possible. Mais aussi, le camp républicain aussi a parfois des éléments de langage aussi qui peuvent susciter de la passion de part et d'autre. Donc, dans le feu de l'action, c'est normal que le camp républicain puisse indexer le camp démocrate. Mais je dis que, n'oubliez pas le contexte, nous sommes dans un contexte de campagne électorale. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de mots qui sont dits, et très souvent les destinataires ne comprennent pas le sens des mots qui sont prononcés par les politiciens, et donc ça peut entraîner un dérapage.
L'on sait aussi que la personne qui a tenté d'assassiner le président Trump était un jeune de 20 ans, sympathisant du Parti républicain. Comment expliquer que ce soit quelqu'un de son propre parti qui ait cherché à tenter la vie de l'ex-président américain?
Vous savez, dans le feu de l'action, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on avance. Je pense que les heures à venir, dans 3 à 4 jours, on aura beaucoup plus d'informations sur les circonstances. Mais dans un premier temps, je dirais que, pour moi en tout cas, je vais d'hypothèse en hypothèse. c'est peut-être quelqu'un qui n'a plus envie de voir Donald Trump au pouvoir, ou quelqu'un qui a été tout simplement manipulé, parce qu'il est quand même assez jeune, 20 ans. Mais c'est encore trop tôt d'épiloguer sur les raisons qui auraient pu pousser ce jeune homme à vouloir tuer Donald Trump. Vous savez aussi qu'aux États-Unis, le port d'armes, avec cette liberté que les uns et les autres ont, on peut facilement donc se procurer des armes, et puis parfois même apparaître que c'est comme un héros. Entrer dans l'histoire, peut-être par la petite porte pour le commun des mortels, mais aussi par la grande porte pour celui qui veut poser cet acte. Mais il est encore trop tôt d'avancer des arguments ou des causes qui pourraient expliquer cela. Il faut attendre les jours et les heures à venir pour avoir de plus en plus d'informations.
Alors, quel impact de cette tentative d'assassinat sur les prochaines élections présidentielles aux États-Unis?
À l'échelle internationale, vous avez vu le soutien de part et d'autre de pratiquement tous les chefs d'État. En interne, c'est les mois. Politiquement, ça va servir au candidat Trump. Et je pense qu'ils ne vont pas du tout se laisser compter. Ils vont profiter au maximum, en tout cas, pour les heures et les jours à venir, essayer de capitaliser cette tentative d'assassinat qui, il faut le dire politiquement, va profiter à Donald Trump pour ses élections.
Est-ce que ce serait crédible, comme certains laissaient entendre, de penser à une mise en scène pour booster la popularité du candidat Trump?
Alors, l'historien que je suis n'écarte rien. Mais en la matière, l'historien ne réagit pas à chaud. Il faut beaucoup de recul. Peut-être qu'après, l'histoire nous dira exactement ce qui s'est passé. Mais je n'écarte pas non plus cette hypothèse, mais je ne l'avance pas comme première hypothèse.
Alors, pour ça, pour finir, hein, malheureusement, ce n'est pas la première tentative d'assassinat, voire d'assassinat effectif d'un homme politique dans l'histoire de l'Amérique. La plus célèbre donc de cette tentative, c'est bien sûr celle de John Kennedy. Est-ce que l'on doit se dire, malheureusement, l'Amérique est en train de renouer avec ses vieux démons?
Non, quand vous prenez le temps quand même qui sépare l'assassinat de Kennedy à ce qui s'est passé il y a plus de 50 ans pratiquement. Non, je dirais que il faut peut-être relativiser les choses. Il y a un contexte actuel qui prévaut. Il faut tenir compte surtout de ce contexte et puis chercher à comprendre les failles du système sécuritaire, améliorer donc ce système-là pour ne plus que ce genre de situation arrive. Les hommes politiques sont des hommes comme vous et moi, qui ont des sympathisants, qui ont aussi malheureusement des gens qui ne les apprécient pas. Et ces gens qui ne les apprécient pas pensent souvent que la solution, c'est peut-être les éliminer physiquement. Et pour moi, il faut laisser la démocratie évoluer, la démocratie décider de qui doit diriger les États et non qu'un individu s'élève et décider de mettre fin à la vie d'un autre individu.
Pour ce moment, nous vous disons merci.
Merci à vous.
À l'instant, l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, enseignant-chercheur en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Passons au rappel des titres de ce journal. Accusation de déstabilisation du Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Elles traduisent un état de méfiance et compliquent la nécessaire coopération dans la sous-région, selon William Assonvo, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. La filière anacarde au fil des années est une grande pourvoyeuse d'emplois pour les populations. Ce sont 15 000 emplois directs et plus de 70 000 emplois indirects, selon le Premier ministre Beugré Mambé. Et hors de nos frontières, 5 personnes ont été tuées hier dans un attentat à la bombe à Mogadiscio, dans la capitale somalienne. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. La revue de presse est à suivre maintenant avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. D'abord, voyons comment vos journaux de ce lundi 3.